Il faut s'imaginer la scène suivante. C'est l'heure d'ouvrir un cadeau très attendu.
D'accord.
Le paquet est magnifique et le contenu est précieux. Il arrive vraiment au moment le plus critique, disons en plein milieu d'une grave crise financière personnelle pour celui qui le reçoit.
Ah oui, le genre de cadeau qui tombe à pic, quoi.
Exactement. La réaction sociale normale, la seule qui soit acceptable en fait, c'est de sourire de toutes ses dents, d'exprimer une immense gratitude et de dire à quel point ce geste sauve la situation.
C'est la moindre des choses, mais oui.
Ouais, mais au lieu de ça, la réaction de celui qui reçoit le cadeau est froide. Une réponse du genre, je cite, « Je reconnais l'existence de ce cadeau, je n'en avais pas vraiment besoin car je me suffis parfaitement à moi-même, mais c'est bien d'avoir enfin trouvé l'opportunité de me le donner. »
Oula. Ça jette un froid glacial dans n'importe quelle pièce. On brise complètement le contrat social implicite de la gratitude.
Totalement.
La personne qui a fait l'effort d'offrir le cadeau s'attend à de la chaleur, à une reconnaissance de son utilité. Et elle reçoit une sorte d'analyse clinique distante. On frôle l'insulte, en fait.
C'est clair. C'est perçu au mieux comme de la maladresse sociale, au pire comme de l'arrogance pure. Et pourtant, c'est précisément le point de départ de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Bienvenue à tous dans cette nouvelle analyse.
Je suis ravie d'être là pour en parler.
Et moi de même. Aujourd'hui, on va décortiquer les notes de la session 13 du docteur Matthew S. Harmon. Ces notes portent sur un texte antique, l'Épître aux Philippiens, et plus spécifiquement le chapitre 4, des versets 10 à 23.
Un passage vraiment riche.
Très riche. Le thème central posé par ces notes, c'est la suffisance de Dieu pour tous nos besoins. Notre mission ici va être d'examiner ce document qui, sous des dehors très anciens, s'avère d'une pertinence frappante pour notre époque.
Ouais, ça bouscule pas mal d'idées reçues.
Absolument. Il s'attaque à notre gestion des richesses, à la véritable nature du contentement, et surtout, il déconstruit les dynamiques de pouvoir toxiques qui accompagnent souvent l'argent. Bon, décortiquons tout ça. Reprenons notre scénario du cadeau. Car ce passage est qualifié, avec un certain humour, par plusieurs érudits de « merci ingrat » de la part de l'apôtre Paul.
L'expression est forte, mais elle résume bien le malaise initial du lecteur. Paul vient de recevoir un soutien financier vital de la part de la communauté de Philippe, par l'intermédiaire d'un homme nommé Épaphrodite.
D'accord.
Et il faut se rappeler que Paul est en prison, ou du moins en résidence surveillée. Il ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Ce don, c'est une vraie bouée de sauvetage.
Et pourtant, il réagit bizarrement.
C'est ça. Le docteur Harmon souligne que la structure de la réponse de Paul suit un schéma répétitif, très défensif. D'abord, une reconnaissance. Il se réjouit que les Philippiens aient ravivé leur intérêt pour lui.
Jusque-là, ça va.
Ouais. Mais ensuite, une explication immédiate pour les dédouaner. Il précise que s'ils ne l'ont pas fait plus tôt, c'est par manque d'opportunité, non de volonté.
Ok, il les excuse un peu.
Voilà, mais la troisième étape est la plus déroutante. C'est un qualificatif strict. Il insiste sur le fait qu'il ne parle pas par besoin, affirmant qu'il a appris à être pleinement satisfait, quelle que soit sa situation.
Et ce schéma se répète même quelques lignes plus loin, non ?
Exactement.
Il reconnaît qu'ils ont bien fait de prendre part à son affliction. Il rappelle leur longue historique de partenariat, mais il ajoute un nouveau qualificatif. Il précise qu'il ne recherche pas le don en lui-même. C'est une véritable gymnastique verbale.
Une vraie contorsion.
Pourquoi ne pas simplement dire « merci pour l'argent, ça me permet de manger cette semaine ». Il y a forcément une raison tactique derrière cette distance émotionnelle.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'à l'arrière-plan culturel gréco-romain explique cette prudence extrême. Paul navigue sur un terrain social miné.
Ah bon ? Comment ça ?
Eh bien, la société antique fonctionnait massivement sur un système que l'on appelle la relation de patron à client.
Le mécénat andro.
Oui, mais ce n'était pas marginal, c'était le moteur économique et social de l'Empire. Une personne manquant de moyens, le client, s'attachait à une personne riche et influente, le patron.
D'accord, je vois le genre.
Mais attention, ce n'était pas la charité désintéressée. Chaque matin, lors d'un rituel appelé la salutatio, les clients devaient se présenter chez le patron.
Tous les matins.
Tous les matins. Il devait chanter publiquement ses louanges, vanter ses vertus dans la cité et se tenir prêt à exécuter ses volontés politiques ou sociales.
Waouh ! En échange de quoi ?
En échange, le patron fournissait une aide matérielle, des terres ou de la protection.
Donc le patron achetait en fait une cour de flatteur professionnel pour asseoir son autorité politique et gonfler son statut social.
C'est tout à fait ça. Le terme clé est l'honneur ou la dignitas. Le patron accumulait du prestige. Cependant, comme le souligne Harmon, cette dynamique impliquait une attente de contrôle absolu. L'argent venait avec des chaînes invisibles.
Des conditions cachées, ouais.
Le patron avait un droit de regard sur la vie de son client. En structurant son remerciement avec toutes ces barrières de langage, Paul déconstruit activement cette attente. Il refuse d'endosser l'uniforme du client romain.
Ah, d'accord. Parce que s'il accepte ce rôle, les Philippiens pourraient penser que leurs dons financiers leur donnent désormais le droit de dicter son emploi du temps, ses priorités, ou même le contenu de son message.
Exactement. Il protège sa liberté de parole.
Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comparable à la réalité d'un créateur de contenu indépendant de nos jours, face à une grosse marque.
Ah, c'est une super analogie.
Ouais, une entreprise propose une commandite très lucrative. C'est tentant, ça assurerait la pérennité du projet. Mais le créateur sait que s'il encaisse le chèque, la marque exigera de relire les textes.
C'est ça, ils vont vouloir lisser les opinions trop tranchées.
Voilà, et ils finiront par dicter la ligne éditoriale. Paul refuse de céder son indépendance éditoriale. D'autant plus que les notes de Harmon rappellent l'existence de nombreux charlatans à cette époque.
Oh oui, les routes de l'Empire en étaient pleines. Des philosophes itinérants et des orateurs qui rassemblaient des foules pour s'utirer des fonds avant de disparaître vers la ville suivante.
Des escrocs, quoi.
Totalement. Paul devait tracer une ligne de démarcation nette entre ces escrocs et lui-même. S'il montrait trop d'empressement pour l'argent, il perdait toute crédibilité. Il rejette donc le mécénat humain traditionnel.
Ce qui nous amène au nœud du problème. Si l'on refuse la sécurité qu'offre un riche protecteur, sur quoi repose notre stabilité éditoriale?
C'est la grande question.
Paul introduit ici sa redéfinition du contentement et il utilise un concept philosophique très en vogue à l'époque, l'autosuffisance. Le terme grec est l'autarcie, c'est bien ça?
C'est ça. Mais le sens était très différent de notre usage moderne. L'idéal stoïcien prônait l'indépendance absolue, l'idée de n'avoir besoin de rien ni de personne.
Une sorte de détachement émotionnel complet face aux aléas de la vie.
Oui, Paul s'approprie ce terme, mais il le modifie fondamentalement. Il ne s'agit plus d'une autosuffisance par la force de la volonté, mais de ce que le docteur Harmon appelle une suffisance en Dieu.
La nuance est importante.
Elle est majeure même. Le stoïcien cherchait l'apathie, l'absence de passion ou de besoin, en se repliant sur lui-même comme dans une forteresse intérieure.
Alors que Paul, lui, ne s'isole pas. Son contentement est un état de satisfaction stable qui découle de la conviction que les provisions divines sont suffisantes, que la situation soit favorable ou désastreuse. Il affirme savoir vivre dans l'humiliation et dans l'abondance.
C'est ça.
Mais, attends, n'y a-t-il pas une forme saine d'autosuffisance aujourd'hui, hein, je veux dire, promouvoir la responsabilité personnelle, payer ses factures, gérer ses affaires pour ne pas être un poids pour la société, c'est considéré comme une vertu aujourd'hui.
Bien sûr.
En quoi aspirer à ne dépendre de personne serait-il problématique ou illusoire?
Les notes de Harmon ne condamnent pas du tout la responsabilité personnelle. Travailler et subvenir à ses besoins est encouragé par Paul dans d'autres textes.
D'accord, donc c'est pas une incitation à la paresse.
Pas du tout. Le problème se situe au niveau de l'illusion d'une indépendance totale. Croire que l'on peut traverser l'existence sans jamais être vulnérable, sans jamais avoir besoin d'aide ou de grâce, c'est une construction fragile.
Une construction qui s'effondre à la première crise majeure, qu'elle soit de santé ou financière.
Exactement. Et Harmon attire notre attention sur le vocabulaire grec utilisé ici. Lorsque Paul dit qu'il sait être abaissé, il emploie une racine verbale identique à celle utilisée plus tôt dans la lettre pour décrire l'humilité.
Ah, intéressant.
Accepter sa propre vulnérabilité et ne pas être totalement autonome, c'est un acte d'humilité, à l'opposé de l'orgueil stoïcien.
Il va d'ailleurs utiliser un mot très spécifique pour décrire cette posture. Il affirme avoir appris le secret de vivre dans l'abondance comme dans la faim.
Oui, le mot secret.
Le choix de ce mot n'est pas anodin dans le contexte du 1er siècle. Il évoque directement les religions à mystère, ces cultes de l'Antiquité qui exigeaient des rites d'initiation complexes et occultes pour accéder à une prétendue vérité supérieure.
C'était très populaire à l'époque.
En utilisant ce terme, Paul semble narguer ses pratiques. Il dit en substance que la véritable initiation ne se trouve pas dans des cérémonies secrètes dans des grottes, mais dans une confiance humble face aux circonstances du quotidien.
Et cette révélation du secret prépare le terrain pour la phrase qui suit. Et c'est sans doute l'une des déclarations antiques les plus connues, mais aussi l'une des plus déformées par notre culture contemporaine.
Oh oui.
Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le fameux verset de la performance.
On le voit partout.
Grave. On le retrouve imprimé sur des t-shirts d'entraînement, tatoué sur les bras d'athlètes professionnels ou utilisé comme mantra avant une grosse présentation commerciale.
C'est vrai. C'est devenu un slogan.
L'interprétation dominante est de l'ordre du dépassement de soi. Genre, je peux remporter ce match, soulever ce poids ou obtenir cette promotion parce qu'une force supérieure me permet d'accomplir mes ambitions. On en a fait une sorte de boisson énergisante spirituelle.
C'est une excellente image. Mais le docteur Harmon identifie cela comme une erreur d'application contextuelle classique. Le verset est complètement amputé de son environnement immédiat.
Il faut regarder ce qu'il y a autour.
Exactement. Paul vient de parler de survie face à la famine et de la capacité à ne pas se laisser corrompre par une richesse soudaine. Ce n'est donc pas une formule magique pour obtenir ce que l'on désire, mais une garantie de résilience pour traverser ce dont on a besoin.
Ça change tout.
Paul parle de la force de supporter l'emprisonnement et l'imminence potentielle d'une exécution. L'objectif n'est pas la conquête, c'est l'endurance.
Et les experts linguistiques soulèvent un point fascinant concernant la préposition utilisée dans le texte grec original, qui modifie considérablement notre perception de cette fameuse force.
En effet, de nombreuses traductions affichent « je puis tout par celui qui me fortifie ». Cependant, le grec original « en » se traduit plus précisément par « en celui » ou « dans celui qui me fortifie ».
Remplacer « par « en », ce n'est pas qu'un détail grammatical.
Ah non, pas du tout. Dire « par », c'est faire de la source de force un simple outil. C'est un moyen d'arriver à ses propres fins. En revanche, dire « en celui », cela évoque une sphère d'existence.
C'est un concept spatial. Cela signifie que la force ne nous est pas injectée comme un carburant pour nos projets, mais qu'elle réside dans l'immersion au sein de cette relation spirituelle. C'est un ancrage.
C'est exactement ça.
Ce qui m'amène à une contradiction apparente dans l'attitude de Paul. S'il est si détaché des contingences matérielles, s'il baigne dans cette sphère de contentement divin et refuse catégoriquement d'être client de riches mécènes, comment justifie-t-il le fait de prendre l'argent des Philippiens ?
C'est une question légitime ?
Bah oui, n'est-ce pas un peu hypocrite de donner une leçon d'indépendance tout en encaissant les fonds ?
Eh bien, c'est là que l'analyse des notes de Harmon devient cruciale concernant la géométrie de la transaction. Si Paul accepte une transaction horizontale directe entre lui et les Philippiens, il redevient un client, avec les dettes d'honneur que cela implique.
La fameuse salutation et tout le reste.
Voilà. Il va donc modifier cette ligne droite pour en faire un triangle. Il déclare que l'offrande des Philippiens n'est pas un paiement qui lui est destiné, mais un sacrifice spirituel, un parfum de bonne odeur offert directement à Dieu.
Ah, je comprends.
Dans ce triangle, Dieu est le seul et unique patron véritable. Dieu reçoit le don des Philippiens et décide ensuite, en tant que propriétaire, de l'allouer à Paul.
Donc Paul se positionne avec les Philippiens sur un pied d'égalité totale. Ils sont tous des clients du même patron divin.
C'est la clé de toute sa démarche.
Et c'est ici qu'intervient un terme grec essentiel qui structure toute la relation, la koinonia. On le traduit souvent platement par communion ou partage, mais la définition antique est beaucoup plus robuste.
Oh oui, la koinonia n'est pas juste un sentiment chaleureux d'appartenance. À l'origine, c'est un terme commercial utilisé pour décrire des partenariats commerciaux, des entreprises conjointes où les participants mettent en commun leurs ressources, partagent les risques et partagent les bénéfices.
C'est du business en fait.
Dans un sens, oui. Quand Paul parle de koinonia dans l'affliction, il décrit des partenaires de tranchée, des associés engagés dans la même entreprise risquée. Ils ne lui font pas la charité, ils investissent des capitaux dans une mission commune.
Cette transformation de la charité en partenariat nous fait glisser vers le concept plus large de l'intendance, ce que les anglo-saxons appellent le stewardship.
Légitime et le seul patron, cela signifie qu'aucune ressource ne nous appartient en propre.
C'est vertigineux quand on y pense.
Nos finances, nos propriétés et même notre énergie ne sont que des capitaux qui nous sont temporairement confiés. Le docteur Harmon pointe du doigt une illusion mathématique très courante dans la gestion des ressources.
Laquelle ?
Beaucoup de gens adoptent l'attitude de la dîme stricte. Je donne 10% à Dieu ou à des œuvres caritatives, donc je suis quitte. Les 90% restants m'appartiennent et j'en fais ce que je veux.
C'est vrai que c'est une façon de penser très répandue.
Mais la logique de l'intendance détruit ce calcul. Si la terre et ce qu'elle contienne appartiennent au Créateur, alors 100% des ressources sont à lui. Nous sommes simplement les gestionnaires de ces 100%.
Donc la question n'est plus « combien de mon argent vais-je donner ?» mais « quelle part de l'argent de Dieu m'autorise-t-il à garder pour mes besoins raisonnables ?»
Exactement, le paradigme est complètement inversé.
Pour rendre palpable ce transfert de propriété, les notes rapportent une anecdote du docteur Harmon. Et c'est une image qui résonne avec une angoisse très spécifique. Il raconte l'histoire de la garde d'un poisson rouge.
Ah oui, cette histoire est géniale.
Des amis partent en vacances et laissent à la famille Harmon la responsabilité de leur poisson. Il explique que la présence de ce bottal dans la maison a généré un stress disproportionné.
C'est tellement vrai.
Il vérifiait constamment la température de l'eau, il surveillait la quantité de nourriture avec une précision chirurgicale, et il s'assurait que ses enfants n'effraient pas l'animal. Pourquoi une telle intensité ?
Parce que ce n'est pas le sien.
Voilà. Parce que la pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas la mort d'un poisson. C'est que les amis reviennent de vacances et trouvent leur poisson flottant sur le ventre. La tension venait du fait qu'il allait devoir rendre des comptes pour une vie qui ne lui appartenait pas.
Cette anecdote illustre parfaitement le fardeau positif de l'intendance. Le glissement psychologique est majeur. Tant que l'on se considère propriétaire de notre compte en banque, on a tendance à thésauriser pour se protéger.
Pour bâtir son propre petit royaume de sécurité.
C'est ça. Mais si l'on regarde nos ressources avec l'œil de celui qui garde le poisson rouge d'un ami, notre gestion devient à la fois plus prudente et paradoxalement plus généreuse.
Les ressources sont allouées en fonction des intentions présumées du véritable propriétaire et non selon nos seuls désirs de confort.
Absolument.
L'application de cette koinonia et de cette intendance partagée n'est pas restée une belle théorie abstraite. Elle a eu des répercussions concrètes et historiques ahurissantes, qui se cachent souvent dans les parties des textes anciens que l'on a tendance à survoler. Je parle des salutations de fin de lettre.
C'est la partie que tout le monde saute en général.
Généralement, on lit ces quelques lignes en diagonale. Un tel salue un tel, portez-vous bien, fin du texte. Mais dans ce chapitre 4, au verset 21 et 22, Paul glisse un détail géopolitique qui mérite qu'on s'y arrête. Il précise que les salutations sont envoyées de la part de croyants issus de la maison de César.
C'est l'un des détails les plus révélateurs de l'impact de ces réseaux de koinonia. L'expression « la maison de César » ne signifie pas que Paul dînait avec la famille nucléaire de l'empereur, attention.
D'accord, c'est pas des repas de famille.
Non, cela désigne l'immense appareil d'État romain, l'administration impériale, les fonctionnaires et surtout la garde prétorienne. Or, il faut se rappeler la logistique de l'emprisonnement de Paul à Rome.
Il n'était pas oublié dans un cachot sombre, si je me souviens bien.
Pas du tout. Il était en résidence surveillée, enchaîné physiquement à un soldat prétorien. Et la garde changeait toutes les 4 à 6 heures.
Ce qui veut dire que l'Empire romain lui fournissait un public captif renouvelé plusieurs fois par jour.
Exactement. Les soldats enchaînés à lui, il entendait dicter ses lettres, prier, recevoir des visiteurs, débattre avec des dignitaires. Par cette proximité forcée, le message de Paul a infiltré le sommet de l'appareil militaire.
Et par extension, les fonctionnaires de l'administration impériale.
C'est ça, c'est le paradoxe ultime de l'histoire de Paul. C'est la chaîne de l'Empire qui a servi de courroie de transmission pour que ses idées pénètrent les lieux de pouvoir les plus inaccessibles du monde antique.
C'est fou. Cela prouve la nature organique de ce partenariat antique. Ces communautés n'étaient pas des clubs isolés. Elles formaient un réseau résilient capable de traverser les classes sociales, du simple commerçant philippien jusqu'aux gardes du corps de l'empereur.
C'est un mouvement qui n'a pas de frontières.
Le texte encadre d'ailleurs toute cette réalité par un dernier mot. Paul termine sa lettre en souhaitant « que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ». Le mot « grâce » ouvrait la lettre et la clôture.
La boucle est bouclée.
Toute la discussion, complexe, sur l'argent, l'honneur, le contentement et l'emprisonnement, est emballée dans ce concept de grâce imméritée.
Cette conclusion par la grâce est vraiment la clé de voûte de l'analyse du docteur Harmon. Le grand enseignement de ce chapitre, c'est que la camaraderie motivée par un but commun génère une puissance bien plus vaste que l'effort individuel.
Et pour le contentement ?
Le contentement, durable, celui qui ne s'effondre pas lors des crises, se trouve dans la certitude de la suffisance divine et non dans l'accumulation. Surtout, les interactions humaines, et particulièrement celles impliquant des échanges financiers, ne doivent pas reproduire les dynamiques de domination.
Pas de relation patron-client, donc.
Exactement. Le patronage du monde profane n'a pas sa place. Ça doit refléter une intendance partagée.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au final ?
Ce qui soulève une interrogation finale vertigineuse par rapport à notre mode de vie actuel.
C'est le moment de se poser les vraies questions.
Si l'on prend cette analyse au sérieux, si le véritable contentement consiste à descendre volontairement des montagnes russes de l'accumulation frénétique pour se percevoir comme le simple gardien d'un poisson rouge cosmique...
J'adore cette image. Imaginons un instant l'impact macroéconomique. Que se passerait-il si notre économie moderne, qui repose de manière systémique sur la création de l'insatisfaction, la peur du manque et le désir constant d'acquérir toujours plus, se heurtait demain matin à des millions de consommateurs devenus imperméables à la convoitise ?
Ça serait un séisme absolu. Le système entier devrait être pensé.
Totalement. Si la possession matérielle n'était plus un marqueur d'identité, à quoi ressembleraient nos décisions de carrière, nos investissements ou simplement notre emploi du temps ? Cette analyse nous rappelle finalement que la véritable liberté ne consiste pas à s'isoler pour ne dépendre de personne, mais à reconnaître avec gratitude de qui nous dépendons réellement.
C'est une belle façon de conclure.